Lisette lit Elisabeth Gasquet. Partie 3 sur 3. Chapitre 3. Ce soir-là, Madame Lee, pour la première fois depuis bien des mois, resta chez elle. Thomas, lui-même, le studieux Thomas, leva la tête de dessus ses livres avec étonnement. Mais il se rappela que Guillaume n'était pas bien et que l'attention de sa mère ayant été appelée sur cette circonstance, il était naturel qu'elle restât là pour le surveiller. Et jamais surveillance ne fut plus tendre et plus vigilante. Le regard affectueux de la mère ne semblait pas quitter un instant les traits graves et fatigués du fils. Lorsque Thomas alla se coucher, elle se leva et, s'approchant de Guillaume qui contemplait le feu, elle l'embrassa au front en disant « Guillaume, mon Guillaume, j'ai été voir Suzanne Palmer. » Elle le sentit tressaillir. Mais il garda le silence une minute ou deux, puis il dit « Par quel hasard y es-tu allé, ma mère ?»« Mais mon garçon, ce n'était pas étonnant que j'eusse envie de voir une personne à laquelle tu pensais. Je ne me suis pas mise en avant. J'avais mis mes habits de dimanche et j'ai fait ce que j'ai pu pour me conduire comme tu aurais voulu. C'est-à-dire, j'ai tâché. Au commencement, je m'en suis souvenue, mais après, j'ai tout oublié. » Elle avait bien envie qu'il lui demandât pourquoi elle avait tout oublié. Mais il lui dit seulement « Avait-elle bonne mine, ma mère ?»« Guillaume, je ne l'avais jamais vue auparavant, mais c'est une bonne et douce créature, et je l'aime tendrement, comme j'en ai motif. » Guillaume leva les yeux, avec un moment de surprise. Sa mère était habituellement trop timide pour que les étrangers lui plussent, mais après tout, qu'y avait-il là d'extraordinaire? Comment voir Suzanne sans l'aimer? Il ne faisait donc pas de questions et sa pauvre mère eut à prendre courage et à chercher encore une fois à amener le sujet qui lui tenait si fort au cœur. Comment faire? « Guillaume, » dit-elle, en se découvrant d'un seul coup, par crainte de ne pouvoir amener la conversation où elle voulait. « Je lui ai tout dit. »«
Ma mère, tu m'as perdue !»
dit-il, en se levant en face d'elle et en la regardant d'un air sévère, mais effrayé.
« Non, mon garçon, non, mon enfant, n'aie pas l'air si effaré, je ne t'ai pas perdu !»
s'écria-t-elle, en lui mettant les deux mains sur les épaules et en le regardant tendrement.
« Elle n'est pas fille à endurcir son cœur contre le chagrin d'une mère. Elle est trop bonne pour cela, mon garçon. Ce n'est pas elle qui jugera et qui méprisera les pécheurs. Elle connaît trop bien son évangile pour cela. » « Prends courage, Guillaume, tu le peux, car je l'ai bien examiné. Seulement, ce n'est pas à une femme de dire le secret d'une autre. Assieds-toi, mon garçon, tu es tout pâle. »
Il s'assit. Sa mère prit un tabouret et s'assit à ses pieds. « Tu lui as parlé de Lisette, alors ? » dit-il tout bas, d'une voix rauque.
« Oui, je lui ai tout dit, elle s'est mise à pleurer de mon grand chagrin et du péché de ma pauvre enfant. » Et puis tout d'un coup, sa figure s'est illuminée. Elle tremblait comme si elle avait une pensée heureuse. Et sais-tu ce que c'était, Guillaume, mon garçon? Je suis sûre que ton cœur rendra grâce devant Dieu et devant ses anges, comme le mien, pour la grande bonté de Suzanne. Cette petite Nancy n'est pas sa nièce. C'est l'enfant de notre Lisette. C'est ma petite fille.
Elle ne pouvait plus retenir les larmes qui inondaient son visage. Mais elle regardait toujours son fils. Savait-elle que c'était l'enfant de Lisette ?
Je ne comprends pas, dit-il en rougissant. Elle le sait maintenant. Elle ne le savait pas d'abord, mais elle a recueilli cette pauvre petite créature par compassion, devinant seulement que c'était une enfant de la honte. Elle a travaillé pour elle, elle l'a gardée, elle l'a soignée depuis qu'elle est toute petite, et elle l'aime de tout son cœur. « Guillaume, tu aimeras cet enfant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton suppliant. Il garda un instant le silence, puis il dit « J'essaierai ma mère. Donne-moi le temps, tout cela me trouble. Penser que Suzanne a eu affaire avec une enfant pareille ?»«
Oui, Guillaume. Et penser que Suzanne pourra encore avoir affaire avec la mère de cet enfant ?»
Car elle est tendre, elle est pitoyable, elle parle avec espoir de ma pauvre fille et elle cherchera à me la retrouver quand elle viendra, comme elle fait quelquefois fourrer de l'argent sous la porte pour son enfant. Pense à cela, Guillaume. Voilà Suzanne, pure et sainte comme les anges du ciel, qui reste comme eux pleine d'espoir et de miséricorde et qui se réjouira, comme eux, du repentir de mon enfant. Guillaume, mon garçon, je n'ai plus peur de toi maintenant. Il faut que je parle et que tu écoutes. Je suis ta mère. Et j'ai le droit de te commander parce que je sais que j'ai raison et que Dieu est avec moi. S'il conduit la pauvre égarée à la porte de Suzanne et que ce bon ange nous la ramène ici pleurant et se repentant, tu ne lui diras pas un seul mot de reproche sur son péché, mais tu useras de tendresse et de compassion envers celle qui était perdue et qui sera retrouvée. Si tu veux que la bénédiction de Dieu repose sur toi et pouvoir amener Suzanne chez toi comme ta femme. » Elle était là. Debout. Ce n'était plus la mère douce, suppliante, soumise. C'était un interprète ferme et digne de la volonté de Dieu. Ses manières étaient si changées et si solennelles que tout l'orgueil et l'entêtement de Guillaume cédèrent devant elle. Il se leva lentement pendant qu'elle parlait et baissa la tête par respect pour ses paroles comme pour l'injonction solennelle qu'elle contenait. Lorsqu'elle eut fini, il dit d'une voix si douce qu'elle en fut presque surprise. « Oui, ma mère, je le ferai. Je serai morte peut-être, mais tu le feras tout de même. Tu recueilleras chez toi la pécheresse égarée, tu banderas ses plaies et tu la ramèneras à la maison de son Dieu. Mon garçon, je ne puis plus parler. Je me sens trop faible. »
Il la mit sur une chaise et courut chercher de l'eau. Elle ouvrit les yeux et sourit.
« Dieu te bénisse, Guillaume. Oh, je suis si heureuse. Il me semble qu'elle est retrouvée, tant mon cœur est plein de joie. »
Ce soir-là, M. Palmer resta longtemps dehors. Suzanne craignait qu'il ne fût retourné à ses anciennes habitudes, qu'il ne demeurât dans quelque cabaret, et cette pensée l'oppressait en dépit de tout le bonheur qu'elle puisait dans le sentiment que Guillaume l'aimait. Elle veilla tard, puis elle monta pour se coucher, laissant tout préparé pour le retour de son père. Elle regarda la petite fille endormie qui l'attendait dans son lit avec un redoublement de tendresse et des pensées pleines de prières. Les petits bras se serrèrent autour de son cou dès qu'elle fut couchée. Nancy avait le sommeil léger et elle sentait près d'elle celle qu'elle aimait de toutes les forces de son petit cœur d'enfant. Mais elle était trop endormie pour articuler les petits mots qu'elle commençait à dire. Bientôt, Suzanne entendit son père qui revenait incertain, chancelant, tâtant d'abord la fenêtre, puis la porte, tout en marmottant des paroles incohérentes. La petite innocente, qui se pressait près d'elle, lui semblait d'autant plus pure et plus attachante quand elle pensait tristement à son malheureux père. Il demandait une lumière à grands cris. Elle avait laissé les allumettes et un bougeoir sur le dressoir, mais craignant dans l'état d'ivresse inaccoutumé où il se trouvait qu'il ne mît le feu quelque part, elle se leva doucement, prit un manteau et descendit pour l'aider. Hélas, les petits bras qu'elle avait détachés de son cou appartenaient à une enfant facile à éveiller. Nancy s'aperçut de l'absence de sa chère Suzanne. Elle s'effraya de se trouver dans cette terrible obscurité qui lui semblait sans limite. Elle descendit du lit tout en chemise et se dirigea en chancelant vers la porte de l'escalier. Il y avait une lumière en bas. Suzanne et la sécurité étaient là. Elle fit un pas vers l'escalier. Les marches étaient étroites. Elle était étourdie par le sommeil. Elle chancela, elle tomba, elle roula jusqu'aux pierres du seuil, sur la tête. Suzanne vola vers elle, lui prodigua tous les soins les plus tendres, les plus suppliants, mais les paupières blanches restaient baissées sur ses yeux bleus. Aucun murmure ne s'échappait des lèvres pâles. Les larmes brûlantes qui coulaient sur elle ne la réveillaient pas. Elle restait là, raide, froide et lassée de sa courte vie sur les genoux de son amie.
Le cœur manquait d'effroi à Suzanne. Elle l'emporta dans sa chambre et l'étendit tendrement sur le lit. Elle s'habilla précipitamment de ses mains tremblantes. Son père s'était endormi sur un banc près du feu. Il n'était bon à rien et c'eût été pire encore s'il s'était réveillé. Mais Suzanne sortit précipitamment, vola le long de la rue silencieux jusqu'à la porte du médecin le plus voisin. Elle se hâtait, mais derrière elle courait une ombre qui semblait poussée par une terreur subite. Suzanne sonna violemment. L'ombre qui la suivait se cacha derrière un mur. Le docteur mit la tête à une fenêtre. « Une petite fille vient de tomber d'un escalier au numéro 9 rue de la Couronne. Elle est bien malade, elle se meurt, je crois. Je vous en prie, monsieur, pour l'amour de Dieu, venez vite, numéro 9 rue de la Couronne. »
« J'y vais à l'instant, » dit-il, et il referma la fenêtre.
« Au nom du Dieu dont vous venez de parler, pour l'amour de lui, dites-moi, êtes-vous Suzanne Palmer? Est-ce mon enfant qui se meurt ?»
s'écria l'ombre, et en saisissant le bras de la pauvre Suzanne.
« C'est une petite fille de 2 ans, je ne sais pas qui elle est, mais je l'aime comme si elle m'appartenait. Venez avec moi, qui que vous soyez, venez avec moi !»
Toutes deux volaient dans les rues désertes, silencieuses comme la nuit. Elles entrèrent dans la maison, Suzanne saisit la lumière et monta devant. L'autre suivit. Elle était là, les yeux hagards, à côté du lit, ne regardant pas Suzanne, mais contemplant avidement le pâle visage de la petite. Elle se baissa et, mettant la main sur son pauvre cœur comme pour en comprimer les battements, elle appuya son oreille sur les lèvres blanches de sa fille. Quel que fût le résultat, elle ne dit rien. Mais rejetant les couvertures que Suzanne avait soigneusement arrangées sur la petite créature, elle tâta son côté gauche. Alors, elle leva les bras au ciel avec un geste de désespoir.
« Elle est morte! Elle est morte !»
Elle avait l'air si effarouchée, si insensée, si hagarde, qu'un instant Suzanne eut peur. La minute d'après, le Dieu saint mit du courage dans son cœur. Ses bras entouraient la pauvre femme tombée et ses larmes inondaient son sein. Mais elle fut repoussée avec violence.
« Vous l'avez tuée! Vous l'avez négligée! Vous l'avez laissée tomber sur l'escalier! Vous l'avez tuée !»
Suzanne essuyait les larmes qui l'aveuglaient. Et regardant la mère de ses yeux angéliques, elle dit tristement
« J'aurais donné ma vie pour elle. Oh, son sang est sur moi !»
s'écria la malheureuse mère, avec l'impétuosité sauvage de quelqu'un qui n'a rien à aimer, ni personne qui l'aime pour lui enseigner à se contenir.
« Chut !»
dit Suzanne en mettant son doigt sur ses lèvres.
« Voilà le docteur, tu permettras peut-être qu'elle vive ?»
La pauvre mère se retourna brusquement. Le docteur montait l'escalier. Hélas ! Elle ne s'était pas trompée, la petite fille n'était plus. Lorsqu'il eut confirmé son jugement, la mère eut une attaque de nerfs. Suzanne, toujours dans son profond chagrin, dut s'oublier elle-même, oublier la petite fille qu'elle avait tant aimée depuis 2 ans, et demanda au docteur ce qu'il fallait faire pour la pauvre créature qui se tordait sur le plancher dans l'extrémité de son agonie.
« C'est la mère, » dit-elle.
« Pourquoi n'a-t-elle pas même soigné son enfant ?»
demanda-t-il avec un mouvement de colère. Mais Suzanne dit seulement
« La petite couchait avec moi. C'est moi qui l'ai quittée.
Je vais aller préparer une potion calmante. Pendant mon absence, il faut la coucher. » Suzanne prit du linge dans son armoire et déshabilla doucement le corps immobile et sans force. Il n'y avait d'autre lit dans la maison que celui de son père. Elle souleva donc doucement le cadavre de son enfant chéri et elle allait l'emporter au rez-de-chaussée quand la mère ouvrit les yeux et, voyant ce qu'elle faisait, elle dit
« Je ne suis pas digne de la toucher. Je suis trop mauvaise. Je vous ai parlé comme je n'aurais jamais dû faire, mais je sais comme vous êtes bonne. Ne pourrais-je pas tenir un peu mon petit enfant dans mes bras ?»
Sa voix formait un si étrange contraste avec ce qu'elle était avant l'attaque de nerfs que Suzanne eut peine à la reconnaître, tant elle était devenue douce et suppliante. Les traits avaient également perdu leur expression farouche et semblaient calmes comme la mort. Suzanne ne pouvait parler, mais elle souleva la petite fille et la mit dans les bras de sa mère,
Puis en les regardant toutes deux, quelque chose triompha de son courage et elle tomba à genoux en s'écriant tout haut.
« Oh Dieu ! Mon Dieu ! Aie pitié d'elle ! Pardonne-lui et console-la »
Mais la mère souriait toujours. Elle caressait le petit visage, en murmurant de tendres paroles comme si son enfant était vivante. « Elle devient folle !» pensait Suzanne. Mais elle priait toujours en pleurant. Le docteur revint avec la potion. La mère la prit sans se douter de la nature du remède. Le docteur resta près d'elle et bientôt elle s'endormit. Alors, il se leva doucement et faisant signe à Suzanne de le suivre jusqu'à la porte, il lui dit « Il faut lui enlever le corps. Elle ne se réveillera pas. Cette potion la fera dormir plusieurs heures. Je reviendrai avant midi. Voilà le jour. Adieu. » Suzanne referma la porte sur lui, puis dégageant l'enfant des bras de la mère, elle ne put résister au désir de pleurer doucement son enfant chéri, en essayant de fixer dans son souvenir ce doux petit visage, silencieux et pâle. Puis, elle se rappela ce qui restait à faire. Tout était en ordre dans la maison. Son père dormait encore profondément sur le banc, en dépit du tumulte de la nuit. Elle sortit, traversa les rues désertes et silencieuses encore, bien qu'il fît grand jour, et arriva à la demeure des Lee. Madame Lee, qui avait conservé ses habitudes de campagne, ouvrait ses volets. Suzanne la prit par le bras et, sans rien dire, entra dans la maison. Alors, elle se mit à genoux devant Madame Lee, stupéfaite, et pleura comme cela ne lui était jamais arrivé. Le chagrin de la nuit l'avait bouleversée, et après avoir tant souffert avec calme, elle ne pouvait trouver la force de parler, maintenant que la première angoisse était passée. « Ma pauvre fille, qu'est-ce qui t'a gonflé le cœur au point de te faire pleurer ainsi? Dis-moi, je t'en prie. Non, on pleure, pauvre enfant, si tu ne peux pas parler encore. Cela te soulagera, et ensuite tu pourras parler. »«
Nancy est morte, » dit Suzanne. « Je l'ai quittée pour aller trouver mon père. Elle a roulé dans l'escalier. » Et n'a plus respiré. Oh, voilà mon chagrin. Mais j'ai autre chose à vous dire. Sa mère est venue, elle est chez nous. Venez voir si c'est votre Lisette. »
Madame Lee ne put répondre. Mais pâle et tremblante, elle mit son chapeau et suivit précipitamment Suzanne jusqu'à la rue de la Couronne. Chapitre 4. En entrant dans la maison, rue de la Couronne, elles s'aperçurent que la porte tournait difficilement sur ses gonds. Suzanne regarda instinctivement derrière pour découvrir l'obstacle et elle aperçut bientôt un petit paquet enveloppé dans un morceau de journal et contenant, évidemment, de l'argent. Elle s'arrêta et le ramassa.
« Voyez, » dit-elle tristement. « Voilà ce que la mère apportait pour son enfant hier au soir. »
Mais Madame Lee ne répondit pas. Si près de savoir si elle avait ou non retrouvé son enfant perdu, rien ne pouvait l'arrêter. Elle avançait d'un pas tremblant et le cœur troublé. Elle entra dans la chambre à coucher, silencieuse et sombre. Elle ne fit aucune attention au petit cadavre auprès duquel Suzanne s'arrêta. Mais elle alla tout droit au lit, ouvrit le rideau et vit... Lisette. Mais non son ancienne Lisette, gaie, fraîche, innocente. La Lisette qu'elle avait devant les yeux était vieille avant le temps, Sa beauté avait disparu. Des traces profondes de souffrance et de misère, hélas, étaient imprimées sur les joues si rondes, si fraîches, si unies, lorsque pour la dernière fois elle avait réjoui le regard de sa mère. Jusque dans son sommeil, elle portait les marques de la douleur et du désespoir qui étaient l'expression ordinaire de son visage. Même dans son sommeil, elle ne savait plus sourire. Mais toutes les traces du péché et du chagrin qu'elle avait traversé lui attiraient d'autant plus sûrement le cœur de sa mère. Elle restait là, la contemplant d'un œil avide, comme si elle ne pouvait rassasier sa soif de la voir. Enfin, elle se pencha et baisa la main pâle et rude qui pendait sur le couvre-pied. Ce mouvement ne troubla point le sommeil de Lisette. Sa mère n'avait pas besoin de poser si doucement sa main sur le lit. Elle ne donnait aucun signe de vie, seulement, de temps à autre, un profond soupir s'échappait de ses lèvres comme un sanglot. Madame Lee s'assit près du lit et, tenant le rideau, elle regardait toujours comme si elle ne pouvait se satisfaire. Suzanne eût bien voulu rester auprès de sa petite Nancy, mais son temps et ses pensées ne lui appartenaient pas et, comme toujours, il fallait que sa volonté fût sacrifiée à celle des autres. Chacun semblait se décharger sur elle de son fardeau. Son père était de mauvaise humeur, par suite de son intempérance de la veille, et il ne se fit pas scrupule de lui reprocher la mort de la petite Nancy. Puis, lorsqu'après avoir doucement supporté ses remarques pendant quelque temps, elle se mit à pleurer, il la blessa plus cruellement encore en essayant de la consoler et en disant que ce n'était pas tant pis que la petite fût morte. Après tout, elle n'était pas à eux. Et pourquoi en aurait-il l'embarras ? Suzanne se tordait les mains. Elle s'approcha de son père et le conjura de se taire. Puis, elle eut à s'occuper de l'enquête judiciaire. Elle eut à renvoyer ses petits écoliers. Enfin, il fallut dépêcher un petit voisin de bonne volonté chez Guillaume Lee, qui devait, pensait-elle, savoir ce qu'était devenue sa mère et être mis au courant des affaires. Elle lui faisait demander de venir lui parler parce que sa mère était chez elle. Heureusement, son père sortit pour aller jusqu'à la première place de fiacre, raconter tout ce qu'il savait des événements de la nuit, car Suzanne ne lui avait pas encore parlé de celle qui dormait et de celle qui veillait silencieusement dans sa chambre. Guillaume vint à l'heure du dîner. Il était rouge. Il avait l'air heureux, impatient, agité. Suzanne, calme et pâle, vint au-devant de lui, son doux et tendre regard cherchant le sien. « Guillaume, » dit-elle d'une voix basse et ferme, « votre sœur est là-haut. »«
Ma sœur, »
dit-il, comme si cette idée l'effrayait. Et son air joyeux devint sombre. Suzanne le vit. Le cœur lui manqua un peu, mais elle continua aussi calme en apparence que par le passé. « C'était la mère de la petite Nancy, comme vous le savez peut-être. La pauvre petite Nancy s'est tuée cette nuit, en tombant dans l'escalier. » Tout le calme de Suzanne disparut, les émotions qu'elle avait réprimées se firent jour. En dépit de ses efforts, elle s'assit, cacha son visage et pleura amèrement. Il oublia tout dans son désir, son besoin de la consoler. Il passa son bras autour d'elle, se pencha sur elle, mais il ne savait que dire. « Oh, Suzanne, comment pourrais-je vous consoler ? Ne vous désolez pas, je vous en prie. » Ses paroles ne changeaient pas, mais l'accent variait chaque fois. Enfin, elle parut reprendre son empire sur elle-même, elle essuya ses yeux. Et son regard ferme, serein, tranquille, vint retrouver celui de Guillaume. Votre sœur était tout près de la maison. Elle s'est approchée en m'entendant parler au médecin. Elle dort maintenant. Et votre mère la garde. Je tenais à vous dire tout cela moi-même. Voulez-vous voir votre mère ?
Non, dit-il. J'aime mieux vous voir seule. Ma mère m'a dit qu'elle vous avait tout raconté.
Et dans sa honte, il baissait les yeux. Mais Suzanne, dans sa pureté sainte, ne baissait pas les yeux.
« Oui, je sais tout, » dit-elle. « Excepté ce qu'elle a souffert. Pensez à cela. »
Il répondit à voix basse, d'un ton sévère. «
Elle avait tout mérité, jusqu'au dernier iota. Aux yeux de Dieu, peut-être. C'est lui qui juge, ce n'est pas nous.
Oh ! S'écria-t-elle avec un élan subit.
Guillaume Lee, j'avais si bonne opinion de vous. N'allez pas me faire croire que vous êtes dur et cruel. La vertu n'est pas de la vertu si elle n'est pas accompagnée de douceur et de miséricorde. Voilà votre mère qui avait presque le cœur brisé, qui se réjouit maintenant parce qu'elle a retrouvé son enfant. Pensez à votre mère.
Je pense à elle, répondit-il. Je me souviens de la promesse que je lui ai faite hier au soir. Il faut me donner du temps. Je ferai bien avec le temps. Je n'ai pu y penser tranquillement. Mais je ferai ce que je dois faire, ce qu'il faut. N'ayez pas peur. Vous m'avez parlé bien franchement, Suzanne. Vous avez douté de moi. Je vous aime tant que vos paroles me vont au cœur. Si j'avais hésité un moment avant de promettre tout d'un coup, c'est que, même par amour pour vous, je ne voulais pas dire ce que je ne sentais pas. Et au premier abord, je ne sentais pas du tout ce que vous auriez voulu. Mais je ne suis ni dure, ni cruelle. Si je l'étais, je n'aurais pas autant de chagrin que j'en ai eu.
Il se leva pour partir, et par le fait, il sentait qu'il avait besoin de réfléchir en paix. Mais Suzanne, attristée de ses paroles imprudentes et de leur dureté apparente, fit un pas ou deux vers lui, s'arrêta, et puis, rougissant violemment, elle dit doucement à demi-voix.
« Guillaume, je vous demande pardon, je suis bien fâchée. Voulez-vous me pardonner ?»
Elle, qui s'était toujours tenue à l'écart, qui avait toujours été si réservée, elle parlait maintenant d'une voix suppliante. Ses yeux tantôt imploraient, tantôt se baissaient vers la terre. Sa douce confusion en disait plus que ses paroles. Guillaume se retourna, tout heureux de se voir sûr d'être aimé. Il la prit dans ses bras et l'embrassa. « Ma Suzanne !» dit-il. Cependant, la mère veillait en haut, sur son enfant. Il était tard dans l'après-midi, quand elle se réveilla, car le narcotique qu'elle avait pris était énergique. Dès qu'elle ouvrit les yeux, son regard se fixa sur sa mère, comme si elle eût été fascinée. Madame Lee ne se détourna pas, ne bougea pas. Il lui semblait qu'en remuant, elle détruirait son empire sur elle-même. Mais au bout d'un moment, Lisette s'écria, d'une voix déchirante,
« Ma mère, mère, ne me regarde pas, j'ai fait trop de mal. Ma mère !»
Et cachant sa figure, elle se voilait avec les couvertures, puis elle resta sans mouvement, comme si elle était morte. Madame Lee s'agenouilla près du lit et dit de sa voix la plus douce, « Lisette, mon enfant, ne dis pas cela. Je suis ta mère, ma chérie, n'aie pas peur de moi. Je t'aime toujours, Lisette. J'ai toujours pensé à toi. Ton père t'a pardonné avant de mourir. » Lisette tressaillit un peu, mais sans rien dire. « Lisette, mon enfant, je ferai tout pour toi, je ne vivrai que pour toi. Seulement n'aie pas peur de moi, quoi que tu sois ou que tu aies pu être. Nous n'en parlerons jamais. Nous laisserons le passé derrière nous et nous retournerons à la ferme de Pclose. Je ne l'ai quitté que pour te chercher, mon enfant. Et Dieu t'a ramené vers moi, que son nom soit béni. Ce Dieu est bon aussi, Lisette. Tu n'as pas oublié ta Bible ? J'en suis sûre, tu lisais si bien. Moi, je n'y suis pas habile, mais j'ai appris des versets qui me consolaient un peu et je me les disais bien des fois par jour. Ne te cache pas comme cela, Lisette. C'est ta mère qui te parle. Ta petite fille est venue dans mes bras hier. C'est un ange maintenant et elle parlera à Dieu pour toi. Ne sanglote pas si fort. Tu la retrouveras dans le ciel. Car je suis sûre que tu tâcheras d'y aller. À cause de ta petite Nancy. Écoute, je vais te dire les promesses de Dieu à ceux qui se repentent. Seulement n'aie pas peur. » Madame Lee joignit les mains et chercha à répéter bien nettement tous les passages de miséricorde et d'amour qu'elle put se rappeler. Elle entendait bien, à la respiration oppressée de sa fille, que celle-ci écoutait. Mais elle était si agitée et si troublée qu'elle vit bien qu'elle ne pouvait plus parler. C'était tout ce qu'elle pouvait faire que de ne pas pleurer tout haut. Enfin, elle entendit la voix de sa fille.
« Où l'a-t-on mise ?
demanda-t-elle. Elle est en bas, elle a l'air si tranquille, si heureux.
Savait-elle parler ? Oh mon Dieu ! Si j'avais seulement pu entendre sa petite voix, j'en rêvais, ma mère. Pourrais-je la revoir encore une fois ? Oh ma mère, si je me donne bien de la peine, si Dieu est très miséricordieux et que j'aille au ciel, je ne la reconnaîtrai pas. Je ne reconnaîtrai pas mon enfant. Elle m'évitera comme une étrangère. Elle cherchera Suzanne Palmer. Et toi ? Oh ! Quel malheur ! Quel malheur !
Elle tremblait dans son extrême angoisse. Tout en parlant, elle avait découvert son visage et elle cherchait à lire dans les yeux de Madame Lee ce qu'elle pensait. Lorsqu'elle vit ses yeux fatigués, remplis de larmes, qu'elle aperçut les lèvres tremblantes, elle jeta ses bras autour du cou de sa mère et pleura comme cela lui était arrivé souvent dans ses chagrins d'enfant. Mais cette fois, la douleur était plus amère et plus profonde. Sa mère la serra sur son sein, la consolant comme une enfant, et elle reprit un peu de calme. Elles restèrent ainsi de longues heures. Enfin, Suzanne Palmer monta avec une tasse de thé pour Madame Lee. Elle regarda la mère donner à manger à sa fille qui résistait, l'encourageant par mille ruses ingénieuses. Ni l'une ni l'autre ne s'apercevait que Suzanne fut là. Le soir, elles s'endormirent dans les bras l'une de l'autre, mais Suzanne coucha par terre, auprès d'elle. On emmena le petit corps, sacrifice involontaire dont le rappel dans la patrie céleste avait ramené sa pauvre mère égarée. On l'emporta dans les montagnes qu'elle n'avait jamais vues de son vivant. On n'osa pas la déposer auprès de son austère grand-père dans le cimetière de Milnerow. Mais on l'ensevelit dans un cimetière isolé au sein des bruyères, là où les Quakers déposaient autrefois leurs morts. On l'enterra sur le penchant éclairé par le soleil où s'épanouissent les premières fleurs du printemps. Guillaume et Suzanne habitent la ferme d'Upclose. Madame Lee et Lisette vivent dans une petite chaumière cachée dans un pli de terrain. Thomas est maître d'école à Rochdale et il aide Guillaume à soutenir leur mère. Tout ce que je sais, c'est que si la chaumière est cachée dans une vallée verdoyante, le moindre signe de douleur sur la montagne s'y fait entendre. À ces appels de la souffrance ou de la maladie, répond une femme triste et douce qui sourit rarement et dont les sourires sont bien plus tristes que ses larmes. Elle sort de sa retraite lorsqu'un nuage pèse sur une autre demeure. Bien des cœurs bénissent Lisette Lee, mais elle implore toujours son pardon, le pardon qui lui permettra de revoir son enfant. Madame Lee est paisible et heureuse. Lisette est précieuse à ses yeux, comme la pièce d'argent perdue et retrouvée. Suzanne répand la joie et le soleil autour d'elle. Ses enfants se lèvent et la disent bien heureuse. L'une d'elles s'appelle Nancy. Lisette l'emmène souvent jusqu'au cimetière de la montagne. Et là, pendant que l'enfant fait des guirlandes de marguerites, Lisette s'assit près d'un petit tombeau et pleure amèrement.